Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Ménigali et vous écoutez Maîtriser les codes, un podcast sponsorisé par le cabinet Brucher, Tilchen & Partners, disponible sur pepperjam.lu et toutes vos plateformes de streaming favorites. Cette série de podcasts a pour thème les conflits au sein des sociétés et répondra aux questions suivantes: comment les prévenir, comment les résoudre. Dans ce premier épisode, en guise d'introduction, nous reviendrons sur la notion de conflit, évidemment, ses différentes natures, les risques encourus, qui est concerné, et nous commencerons déjà à esquisser les stratégies à mettre en place pour à la fois les prévenir et les résoudre. Pour ce faire, je suis accompagné et même très bien entouré des associés du cabinet, Maître Marie Bénat.
Bonjour.
Maître Anne-Marie K.
Bonjour.
Maître Nicolas Bernardi.
Bonjour.
Maître Philippe Sylvestre.
Bonjour.
Et enfin, Maître Nicolas Tilchen.
Bonjour.
Alors, pour débuter, j'aurais souhaité un petit peu revenir sur la notion qui va nous occuper durant ces différents épisodes, celle de conflit au sein d'une société. Alors, on comprend bien, évidemment, de quoi il peut en retourner, mais j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur les différentes natures de ces conflits, qu'on précise un petit peu ce dont on va parler. Avec vous, Nicolas, d'abord.
Oui, un conflit au sein d'une société, ça peut prendre plusieurs formes et surtout, c'est surtout différentes situations. Bon, d'abord, un conflit, il peut y en avoir entre différents actionnaires au sein d'une même société, entre les initiateurs, entre les promoteurs de l'entreprise qui ont lancé la société. Il peut également y avoir un conflit entre les administrateurs, entre les gérants de la société, ceux qui sont en charge de la faire fonctionner au quotidien. Ils peuvent avoir des visions différentes sur le développement de celle-ci, sur la façon de la faire fonctionner. Il peut y avoir des conflits entre les gérants et les actionnaires, ou des visions aussi divergentes qui peuvent entraîner des situations complexes. Et donc, on voit, il y a énormément de sources de conflits qui peuvent exister au sein d'une société. Et ces conflits peuvent intervenir à différents moments de la vie d'une société. Ça peut intervenir lorsqu'il y a des moments de crise, bien entendu, c'est à cela qu'on pense en premier, lorsqu'il y a une situation difficile, parce que c'est là que les avis divergents peuvent apparaître. Mais ça peut également apparaître dans d'autres moments, même quand il y a une croissance forte dans la société, parce que ça entraîne un moment de stress dans la société. On peut avoir une façon différente d'y réagir et ça peut entraîner là. Ça peut entraîner lorsqu'il y a des événements plus difficiles. Par exemple, on découvre des malversations, on découvre des conflits. Donc, ça arrive en fait à beaucoup de moments dans une vie d'une société et il ne faut pas le négliger.
Donc les natures sont très diverses. Marie, vous, Bénat, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, Nicolas parle des conflits au sein de la société, au niveau des organes de gestion. Il ne faut pas oublier non plus les conflits internes au sein de la société, les conflits sociaux, les conflits avec éventuellement certains des salariés. Mais ce qui est important aussi, et quel que soit le stade où on intervient, où on a connaissance de ces conflits, c'est que la plupart du temps, il y a une dimension psychologique qui entoure les conflits, que ce soit le conflit des actionnaires entre eux, conflit avec le salariat, conflit au sein de l'organe de gestion. Donc il y a cette dimension-là que l'avocat, en tout cas, quand il en a connaissance, ne doit absolument pas négliger. Donc moi, c'est un point important que nous, on doit vraiment prendre en compte.
Oui, effectivement, la notion psychologique, on en reparlera au cours de nos différents épisodes, elle réapparaît à différents moments. Merci pour cette première réponse. Je passe à une seconde question qui se porte plutôt sur les conséquences d'un conflit mal géré. Nicolas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet ?
Bien entendu, un conflit va avoir un impact important sur la vie de la société. Bon, c'est d'abord une grosse perte de temps parce que c'est énormément de discussions. Ça va bien sûr plus loin souvent qu'une discussion. Donc on investit beaucoup d'énergie et c'est de l'énergie, c'est du temps qu'on n'investit pas dans le développement, dans le fonctionnement de la société. Donc c'est clair que ça a un impact. Ça peut avoir des impacts encore plus importants parce que ça peut amener à faire ressortir des grandes dissensions entre les acteurs principaux au sein de la société. Ça peut du coup amener parfois des situations dramatiques, des faillites, des liquidations. Donc c'est quelque chose d'important. Et en tout cas, dans la vie d'une société, ça la ralentit. D'où l'intérêt de penser et de pouvoir voir comment les solutionner.
Anne-Marie, vous souhaitiez ajouter ?
Oui, au-delà de l'impact économique, vous avez aussi d'autres problématiques. Vous allez avoir l'impact sur les décisions prises au sein de la société, parce qu'effectivement, si les actionnaires ou si les gérants ne s'entendent plus, vous allez avoir un blocage décisionnel. Mais vous allez aussi avoir un impact sur l'activité de la société, parce que si au-dessus, on n'arrive pas à prendre des décisions en cohésion, le personnel va le ressentir et vous risquez d'avoir une fuite et une déperdition de personnel qui vont se dire, quel est mon avenir dans cette société, j'en vois pas trop. Donc à ce moment-là, je vais peut-être aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs.
L'herbe plus verte, absolument. Nicolas ?
Oui, moi je pense que ce qu'on peut dire, en fait, pour conclure là-dessus, comme vous dirait un bon économiste, ça entraîne une très grande destruction de valeur. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte.
Parfait, c'est entendu. En vous entend, en vous écoutant, on a l'impression que les enjeux sont colossaux et donc automatiquement dans l'esprit de l'auditeur que les grandes entreprises uniquement sont concernées. Mais en réalité, toutes les entreprises le sont-elles concernées ?
Oui, c'est clair. Bah, ça part bien sûr au départ dans les grandes entreprises parce qu'on a beaucoup d'acteurs, donc plus de risques de frottement entre ces différents acteurs. Hein. Je pense que dans les grandes multinationales ou les entreprises qui ont des grandes assemblées générales, on a tous en tête ces conflits, ces assemblées générales houleuses où on a des actionnaires minoritaires qui font de l'activisme, le shareholders activism, comme disent les Anglais. C'est une activité en soi et c'est clair. Mais maintenant, ce type de conflit, ça peut exister à tous les niveaux. Ça peut exister au niveau d'une PME où, par exemple, on a deux initiateurs de la PME, deux associés au départ qui se sont rencontrés mais qui ne s'entendent plus ou qui ont des visions différentes. Ça peut exister dans une société familiale où les différents membres de la famille également ne s'entendent plus ou ont des envies différentes par rapport au devenir d'une société. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez transversal.
Ouais. Tout le monde est concerné, même les petites entreprises. Philippe Sylvestre, vous vouliez...
Oui, j'irai plus loin. Je crois que les conflits dans des petites structures, que ce soit des petites structures familiales, sont beaucoup plus importants dans la mesure où les gens se connaissent et ont une relation émotionnelle beaucoup plus importante que dans une grande société. Si vous avez le fondateur, père ou mère, qui à un moment décide de redonner sa société à un de ses enfants, les non-dits qui ont pu se créer pendant toutes ces années vont ressurgir. Pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre? Et ça, ce sont des conflits qui sont beaucoup plus émotionnels, souvent, que dans des grandes sociétés.
Ouais, de nouveau, la dimension psychologique.
La dimension psychologique, et c'est ce type de conflit dans des petites structures moyennes, où souvent, ça devient des affaires de principe entre les protagonistes. Et donc, ça peut être assez difficile à gérer.
Nicolas Bernardi.
Oui, je voulais rajouter également, souvent dans les petites et moyennes entreprises, il y a aussi moins de moyens. Et parfois, une approche un peu plus artisanale au départ, ce qui fait qu'il y a moins d'anticipation, souvent. On y regarde moins au départ. Et donc, quand le conflit surgit, c'est parfois un peu tard pour réagir.
Donc là, ici, l'idée, ce serait de dire peut-être même anticiper encore plus pour les petites entreprises, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Au Luxembourg, où nous sommes, y a-t-il des spécificités en la matière, excusez-moi, des singularités sur un marché qui est peut-être particulier ? À ce sujet, Philippe, vous avez peut-être la possibilité de nous éclairer ?
Je pense que le marché luxembourgeois est spécifique dans la mesure où il y a plusieurs personnes d'origine différente qui se retrouvent. On a une population très cosmopolite. Et naturellement, le pays, au gré des vents et de l'histoire, a été envahi ou inspiré, appelons ça plutôt comme ça, par d'autres systèmes juridiques. Bon, nous avons notre code civil qui est d'inspiration française, voire copié une copie du code civil français. On a le droit des sociétés qui, lui, est d'une inspiration belge. On a encore un héritage allemand en matière fiscale. Donc tout ça, ce sont des héritages qui ne sont pas forcément toujours bien ficelés dans la mesure où l'un ne marche pas avec l'autre. Mais ça fait aussi un peu le bonheur des avocats dans la mesure où il faut trouver la clé pour fusionner ces différences et tirer l'épingle pour son client.
Il y aurait donc un caractère un peu hybride, une fusion des différents codes des pays frontaliers ?
Non, c'est pas quelque chose d'hybride, c'est plutôt quelque chose d'un particularisme et c'est tout l'enjeu pour nous. Et c'est ce que disait Philippe, c'est réussir à expliciter finalement ça aux clients, aux différents protagonistes. Je vais laisser la parole à Nicolas, je vois qu'il lève la main. Donc.
Non, mais moi je pense qu'il y a un point important dans les conflits d'actionnaires, et c'est vrai que c'est un point. Bon, Luxembourg est au carrefour de plein de cultures juridiques, mais au carrefour aussi de plein de pays. Les sociétés sont détenues par des gens qui viennent de cultures différentes, qui ont des esprits différents, et c'est clair, bien voilà, ça multiplie les possibilités de frottement, et ça multiplie aussi dans ce type de conflits qui ne sont pas du tout nationaux, mais qui dépassent le cadre national, des choses qu'on retrouve plus classiquement peut-être dans d'autres pays.
Mais ce sont des conflits internationaux, c'est-à-dire qu'il y a tout le conflit, généralement, n'est pas géré à Luxembourg. C'est souvent on hérite d'une partie du conflit sur Luxembourg, mais en fait, il y a autour ça gravite et sur souvent les pays limitrophes. Et donc il y a la difficulté en fait de se coordonner aussi sur la.
Merci Marie-Hélène. Nicolas Bernardi, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce point?
Oui,
je crois.
Justement par rapport à ce caractère international. Donc le Luxembourg est un petit pays au centre de l'Europe et traditionnellement, le pays a accueilli de nombreuses sociétés de participation, de nombreux holdings. C'est un aspect également très particulier puisque la holding n'a pas ou peu d'activité opérationnelle. Donc, on a parfois tendance à la considérer comme une société standard établie sur base d'un modèle. Et là aussi, de ne pas anticiper suffisamment peut-être les conflits. C'est pour ça que ici, chez Brüscher Tilschen et Partners, on a toujours eu une approche croisée des matières. On estime que l'avocat qui va conseiller le client en matière de droit des sociétés doit avoir une expérience en matière contentieuse pour pouvoir justement anticiper les problèmes et éventuellement les prévenir ou même déjà les régler à l'avance dans les documents sociaux.
Très bien. Alors, sans dévoiler la suite que l'on retrouvera au cours des différents épisodes, mais de manière à aborder déjà le cœur du sujet, comment concevoir une stratégie efficace de prévention et de résolution? Peut-être pour commencer avec vous, Marie Bénard.
Oui, éventuellement, oui. Donc, pour avoir une stratégie efficace, la première clé, ça va être essayer d'avoir un mode de fonctionnement relativement transparent au sein de la société pour éviter les frustrations, que ça soit au niveau de la tenue des conseils d'administration, au niveau aussi des assemblées. On va essayer de communiquer au maximum. Généralement, ça permettra d'éviter un certain nombre de frustrations et de résoudre bien des conflits en amont. Donc, respecter ce principe, cette valeur de transparence, et elle est également rassurante pour le côté opérationnel, pour les gens qui travaillent également. Donc, ça, c'est un conseil général.
Donc, une dimension presque, de nouveau, encore une fois, psychologique, en tout cas de valeurs, peut-être aussi des moyens financiers avec vous, Anne-Marika.
Financiers, oui, également, je pense, pour lier à la transparence, la mise en place de procédures, des procédures un peu sur mesure, parce qu'effectivement, quand on est une petite entreprise, on n'a pas forcément les mêmes moyens et les mêmes envies, et on n'a peut-être pas forcément les mêmes objectifs qu'on peut avoir en se développant au fur et à mesure de la vie de la société. Et donc, anticiper sur ces problématiques permettent évidemment d'éviter peut-être à un moment donné un blocage, donc mettre en place des procédures dans le processus de décision, dans la communication, essayer de faire peut-être quelque chose un peu sur mesure, c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on est là, pour justement anticiper et faire en sorte que on soit peut-être deux ou trois pas en avant, parce que l'objectif c'est de faire développer la société.
Oui, effectivement. Et comme vous commenciez un peu à y répondre, et comme le faisait aussi Marie tout à l'heure, pour la dimension psychologique, le côté subjectif à éviter, l'intérêt, c'est peut-être aussi de remettre la problématique entre les mains d'un acteur objectif, d'un tiers objectif, comme vous pouvez l'être. Nicolas Bernardi.
Oui, oui, tout à fait. En fait, en tant qu'avocat ou actionnaire ou dirigeant de société, on dispose d'une palette d'outils assez large. Et notre rôle en tant qu'avocat n'est pas d'aller piocher au hasard dans ces outils pour faire de beaux statuts, mais justement d'essayer de comprendre les envies et les besoins du client et surtout d'anticiper les conflits potentiels. Il y a parfois des actionnaires qui sont intéressés par amener de l'argent et percevoir des dividendes. D'autres sont plus intéressés pour s'impliquer réellement dans la société. Et évidemment, ces deux situations vont devoir être appréhendées dans les documents sociaux de manière différente, encore une fois, pour permettre à la société de se développer et anticiper à l'avance ses besoins. Il en est de même pour le financement. Il est important dès le départ d'avoir une vision sur la manière dont la société sera financée à l'avenir et de prévoir tout ça également dans les documents pour pouvoir réagir très rapidement en cas de levée de fonds.
Philippe Sylvestre, vous souhaitiez ajouter quelque chose, je crois.
Oui, je voulais dire, alors Nicolas parlait maintenant de la prévention et l'importance de donner une partie tierce. Et je pense qu'il est aussi très important... À partir du moment où la situation devient un peu plus chaude, aussi de faire appel assez rapidement à des personnes tierces, parce que souvent, et je reviens aux petites structures, l'émotion l'emporte et en fait des choses qui ne sont souvent pas rationnelles et qui peuvent faire dès le début un dommage qui vous allez traîner ce dommage comme un boulet tout au long de votre procédure. Donc ça, c'est important en prévention, même si vous voyez que le contentieux va se manifester, de faire déjà appel en amont, avant qu'il éclate à grand jour, à des spécialistes qui pourront vous assister dans ce futur contentieux.
Anne-Marika ?
Je pense qu'il y a, comme dit Philippe, il y a effectivement un intérêt dans le désamorçage des éventuels conflits et de faire en sorte que, quand on sent que la friction commence à arriver, qu'on commence à avoir des désaccords, d'essayer de résoudre le problème assez rapidement avant justement d'arriver peut-être à un point de non-retour où on va se retrouver au tribunal à se dire les plus grandes monstruosités du monde, alors qu'effectivement, peut-être qu'en ayant anticipé et en ayant discuter auparavant, le problème aurait pu être résolu.
Merci Anne-Marika et merci à toutes et à tous pour vos interventions. Je vous donne rendez-vous ainsi qu'à nos auditeurs très bientôt pour un nouvel épisode de cette série de podcasts. Un podcast disponible sur paperjam.lu ainsi que toutes vos plateformes de streaming favorites. Excellente journée à toutes et à tous.